Ouais. Tout le monde sait.
Allez, on se dit à dans deux semaines.
Ciao, bye bye. Bye.
Bisous. Bonne
bye.
Soirée, ciao.
Bisous.
Chase you out of earth.
Émission de Génération Sport. Dans un instant, retrouvez une nouvelle émission de Génération Sport.
Hop. Bon, on va prendre l'antenne tout de suite, vu qu'on a un petit souci avec le générique, hein, ça arrive. C'est les aléas du direct.
Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de Génération Sport. C'est la première de cette nouvelle saison 2023-2024. Et comme vous le savez sûrement, c'est l'année où aura lieu les JO à Paris durant l'été 2024. Alors on prendra soin d'en parler régulièrement tout au long de cette saison. Ce sera, comme on peut dire, notre fil rouge qui nous mènera jusqu'à la fin de cette saison. Et si je dis on, c'est évidemment car je ne suis pas seul. À mes côtés se trouve Cédric qui a prolongé son contrat pour une année de plus. Salut Cédric.
Et salut tout le monde. Ouais. peut-être le dernier, on ne sait pas encore.
Hein. Ah ouais.
En tout cas, je fais comme tout le monde, je fais de la résistance, au moins jusqu'à la fin des JO. Et puis, selon le nombre de médailles, peut-être qu'on prendra sa retraite ou pas.
Si on fait mieux qu'au championnat du monde d'athlée, tu restes.
Alors ça, c'est facile. Hein. ça veut dire que tu vas faire que je re-signe. Mais en tout cas, voilà, non, grosse année radiophonique qui vous attend. Forcément, voilà, l'événement majeur pour nous, ça va être cet été. On va sûrement faire des choses. On travaille déjà dessus, on réfléchit à des programmes originaux. Donc voilà, quoi.
Ouais, et Alex a lui aussi prolongé son contrat, mais aura malheureusement du retard aujourd'hui.
Enfin, on n'est pas sûr, hein, ça se trouve. Il a été transféré entre-temps.
Il nous a rien dit.
Il nous a rien dit.
Ouais. Et enfin, on accueille une nouvelle recrue dans l'effectif. C'est Clément, salut Clément.
Salut tout le monde, salut. Effectivement, je suis nouveau. À moi de m'imposer dans cette équipe, si on peut le dire comme ça.
De tenir ta place de titulaire. Ça va, t'as passé une bonne semaine ?
J'ai passé une bonne semaine. Ce week-end, match de Gambardella. Premier match sous mes nouvelles couleurs, qui s'est soldé par une victoire. 4-2.
Buteur ?
C'est, oui, buteur. Un but et une passe D aussi, je crois.
Pas mal.
Voilà.
Pas de match pour toi, de toute façon ?
Moi, c'était il y a 2 semaines. J'avais un petit tournoi pour être qualifié en région. Bah, ça s'est pas très bien passé, malheureusement. Donc, je vais commencer la saison en D1. Comme l'année dernière.
Ça y est, là. Ça perd du niveau. Ouais, hein, on était habitué à un démarrage en force.
Ouais.
Que se passe-t-il? C'est déjà la crise.
Je sais pas.
On va envoyer notre agent spéciaux enquêter Alex.
Ouais, et donc
le programme du jour.
Ouais, sans plus tarder, le sommaire de cette émission avec d'abord les actualités locales où on parlera du SCO, des différents clubs de basket du Maine-et-Loire, de hockey sur glace, ainsi que de l'athlétisme. Et pour les actus internationales, on démarrera par la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France, ainsi que du très bon départ du 15 de France. On parlera aussi de la Coupe du Monde de basket qui s'est achevée dimanche dernier, du match de l'équipe de foot de l'équipe de France de football contre l'Irlande, ainsi que de leur match ce soir en amical contre l'Allemagne. On parlera aussi de l'US Open avec le 24e sacre de Novak Djokovic. On passera un tour du côté du volley où les Français se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro en Italie. Et enfin, s'il nous reste un peu de temps, on pourra aussi parler du GP Explorer qui s'est tenu samedi dernier.
On va peut-être commencer par l'actualité un peu plus chaude, j'ai envie de dire, pour nous. Parce qu'on a parlé de l'UFAB 49 qui a fait sa rentrée, on va dire, de façon officielle vis-à-vis de ses partenaires hier soir. On avait la chance avec Alex d'être présent. Donc on a pu voir la nouvelle équipe qui va être là cette saison, donc aussi bien dans le staff que autour des joueuses. Donc comme ce qui avait été annoncé précédemment, bien sûr, il n'y a pas eu de surprise. Hein, c'est toute l'équipe qui était annoncée était présente. Bon, déjà peut-être un changement puisqu'on a une jeune joueuse qui est blessée et qui hélas donc va devoir se faire opérer. Mais voilà. Ils ont quand même voulu la conserver dans le groupe justement pour la soutenir moralement et en espérant que voilà que l'opération, enfin, on espère que l'opération va sûrement bien se passer et comme ça quand elle sera en forme elle pourra revenir dans le groupe niveau objectif il y a des objectifs qui ont été annoncés clairement c'est de faire au moins 7 cette saison.
Okay.
On sait que les années précédentes c'était plus on essaye le maintien tout. Là, c'est clairement la 7e place. Ça fait 2 ans d'affilée où les résultats sont là. Voilà.
Là, donc, ça vise clairement les playoffs.
C'est ça, c'est qualification et puis.
Les ambitions augmentées depuis l'année dernière. Quoi.
Et puis, on en parlera un petit peu après, mais au vu de la préparation sur les 4 matchs qui ont été disputés, c'est vrai qu'il y a quand même de l'espoir que la saison soit très intéressante. Sur un autre point de vue. Bah forcément, il y avait eu, on s'était posé la question, est-ce qu'il y aura la Coupe d'Europe ou pas? On avait appris que c'était bon, que c'était maintenu. Donc, les joueuses auront du temps aussi bien en championnat et en Europe, ça tournera. Donc, les jeunes joueuses pourront avoir de l'expérience européenne.
Ouais. Et là, pareil, elles ont Elles ont affiché des ambitions ou elles sont restées assez neutres?
Là, c'est resté neutre pour l'instant. C'est comme c'est un nouveau format de compétition, faut voir. En tout cas, ça va faire des beaux voyages. Voilà. Et d'un autre point de vue, c'est une chose qu'on espérait, c'est de la part des différents partenaires, mairies, régions, départements, qui ont décidé de soutenir encore un peu plus le club et aussi surtout de soutenir le sport féminin.
Ouais, qui ont soulevé pas mal de fonds.
C'est ça, voilà.
On avait parlé en fin de saison dernière où il manquait, il me semble, c'était 100 000 euros quand même au club.
Pour le trou, je sais plus de combien il était, ouais, mais en tout cas, enfin voilà.
C'est assez conséquent parce que justement, la région, tout ça, un peu tout le monde avait baissé les indemnités et ça fait plaisir de voir.
Ouais, de ce côté-là, ça a mis la main à la poche et aussi, il y a eu une grosse part aussi d'investissement de la part des partenaires privés du club qui représentent une grosse partie du budget. Donc tout le monde va dans le même sens, tout le monde a envie que le club progresse, que le sport féminin progresse. Et voilà, les filles sont déjà motivées, hein, ça s'est senti. On a eu une petite présentation des joueuses qui avaient un couloir voilà pour que tout le monde puisse les applaudir, réservé une par une. On sent que voilà, il y a certaines joueuses qui ont pris... Enfin, elles ont pris du plaisir déjà d'être là, et puis on sent que nos joueuses qui ont disputé les différents championnats d'Europe ou du monde cet été, on sent qu'il y a quelque chose, que ça a changé,
l'objectif a évolué. Quoi.
Voilà, ouais.
Ouais, ok, super. C'est ce qu'on a vu aussi, sans plus tarder, dans les deux matchs de préparation qu'elles ont joué récemment. Le premier, c'était contre Basketland et le retrouvaille avec leur ancienne coéquipière Alexis Peterson. Ouais. Et c'est soulevé sur une victoire de un petit point seulement. Donc ça met vraiment confiance pour avant la reprise du championnat. Le deuxième match, c'était contre Roche-Vendée, un sort de derby. Et malheureusement, là, c'est une défaite de 3 points. Mais je pense que la victoire contre Basketland les met vraiment, vraiment en confiance, à mon avis.
Et dans la foulée, il y a eu le match retour.
Contre Roche-Vendée?
Roche-Vendée, oui. Où ça s'est joué à pareil, à quelques points. Mais en tout cas, parce que même sur leur premier match de préparation, elles le perdent. Mais à chaque fois, quand on lit les différents retours des matchs, on sent qu'il y a de l'ambition, on sent qu'il y a c'est sérieux, ça tente quand c'est mené au score d'aller chercher, de remonter. Enfin, ça se bat bien. Voilà, c'est la défaite en soi contre Roche-Vendée, c'était à domicile. Elle est quelque part anecdotique parce que l'écart est tellement faible. Je crois qu'en termes de scénario, l'entame de match était compliquée. Et elles sont remontées, elles ont été capables de dominer par la suite. Donc c'est bien, ouais, on est à une semaine, je crois, du premier match. Donc, ouais. Non, ils sont déjà bien remontés. Ça va être une belle saison, je pense.
Ouais,
à nouveau, on va prendre du plaisir à vous donner les différents résultats. On ne sait pas encore, mais il est fort possible aussi qu'on reçoive à nouveau des joueuses cette année. C'est en cours de petits réglages, voilà. Puis on verra peut-être cette année aussi les joies de commenter des matchs.
Ouais, on l'espère fortement, le retour, parce qu'on n'avait pas pu en faire la saison dernière, c'était dommage. Maintenant, on va passer à leurs homologues masculins. Le club de l'EAB qui a commencé sa prépa depuis un certain temps déjà, mais depuis la dernière émission, ils ont joué deux matchs. Le premier, c'était contre La Rochelle à domicile et nos Angevins se sont inclinés. Ils ont ensuite joué contre Orléans, c'était hier, il me semble. Et là, c'est une nouvelle défaite, malheureusement, pour nos Angevins, qui démarrent assez mal leur prépa, enfin, qui la finissent même parce que le championnat va bientôt reprendre. En espérant que ça n'influe pas trop sur leur mental avant de reprendre le championnat. Mais c'est des sportifs de haut niveau, normalement, ça devrait le faire. Maintenant, on va passer au troisième club du Maine-et-Loire, c'est Cholet. Cholet, qui n'a pas joué de match depuis la dernière émission, mais c'est l'Académie Gauthier qui a repris du service avec les jeunes Choletais du centre de formation, et notamment un qui a brillé, c'est Soren Brack, qui a été formé à l'EAB. Pour la petite anecdote, j'ai déjà joué contre lui à de nombreuses reprises quand il jouait à l'EAB. Voilà. On va enchaîner avec le SCO qui s'est imposé 2-0 contre le Paris FC. C'est déjà la deuxième victoire d'affilée. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça du côté du SCO, deux victoires d'affilée. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que tu en penses, Clément?
Moi, j'ai beaucoup aimé cette victoire du SCO parce que ça fait énormément plaisir, comme tu le dis, de voir le SCO gagner deux matchs de suite. Et surtout avec la manière contre le Paris FC, un match qui a été maîtrisé. Je vais dire que là on espère pour le SCO que ça va continuer et que pourquoi pas essayer de, bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais une remontée en Ligue 1, je sais pas si ce serait une bonne chose, mais pourquoi pas espérer au vu des deux derniers matchs.
Je pense que ça redorait peut-être un peu notre blason après avoir été un peu humilié quand même pour cette dernière saison de Ligue 1. Remonter directement, ça mettrait du baume au cœur, je pense. T'en penses quoi, toi, Cédric?
Il faudrait être très, très costaud.
Ouais.
Je pense que c'est pas... Si on reste sur une équipe jeune, je pense que ce serait un peu mission catastrophe de remonter aussi vite. Plutôt c'est, d'un côté, c'est toujours mieux, mais là, je pense que ça va être de plus en plus dur de les places pour aller se qualifier en Ligue 1. Si tu finis pas premier, il y a toujours, je crois, le système de...
Il y a deux places après.
Ouais, mais il y a toujours le système de...
Et les barrages.
De barrages.
Il me semble que c'est il y a trois équipes qui, du coup, ça fait troisième, quatrième, cinquième, qui jouent des matchs entre eux. Pour savoir qui jouera le barrage contre le 17e de Ligue 1.
16e du coup.
Ouais, 16e, puisqu'on est 18 maintenant.
Ouais.
Mais voilà, enfin, il y a cette opportunité là aussi, mais qui peut être très compliquée aussi. Et faut voir réellement comment ça va évoluer en termes de Ligue 1 aussi, sur la qualité des matchs, si les écarts se resserrent au fur et à mesure de la saison, ou si on va voir un gouffre abyssal. Et je pense que s'il y a un gouffre en Ligue 1, on l'aura sûrement aussi naturellement en Ligue 2, peut-être pas tout de suite, mais sur les 2-3 ans qui suivent, je pense que il y aura hélas des poulies d'or de la Ligue 2 qui à chaque fois ils joueront pour la montée. Ça va être peut-être aussi triste pour le football. Donc en tout cas, on a quand même, on va dire, mieux réussi le début de saison et la saison, j'ai envie de dire, déjà, comparé à l'année dernière. Après, attention, puisque il y a eu des mercato, enfin, le mercato, c'était fini le 31, officiellement, pour l'Europe, mais il y a eu des transferts juste après pour...
C'est Baptiste Mendy
qui
est parti à Trabzonspor.
Voilà.
Il est parti rejoindre du coup Bernardoni qui est lui aussi allé en Turquie.
Voilà,
pas pour des raisons capillaires, mais pour jouer au football, même si on peut se demander. Mais voilà, du coup, il nous a quitté un peu sur le fil, Baptiste Mendy.
Il n'a pas quitté, il est juste parti. Parce
oui, oui.
Il va bien, je pense. Hein.
Il a dû passer sa visite médicale, etc. En tout cas, il n'est plus angevin, donc on ne pourra plus compter sur lui pour cette saison, malheureusement.
Et je crois qu'il y a aussi, du coup, une arrivée...
Oui, il y a eu... c'est Ferrat, il me semble.
Un buteur
algérien.
Mais en tout cas, voilà. On va voir ce qu'il peut apporter. Voilà. Est-ce que, bon, ce départ de dernière minute, ça ne va pas un petit peu déstabiliser les plans de l'équipe? Faut voir. Enfin, c'est... Là, on est en pleine trêve internationale. Le SCO, voilà, je pense, a bien continué à travailler. En tout cas, je pense que la reprise, voilà, il va falloir être sérieux et garder cet élan, quoi.
Ouais, et la reprise, c'est d'ailleurs cette semaine, parce qu'il joue samedi contre Rodez, qui est actuellement 7e, sachant que le SCO, qui est 16e, Rodez, et le SCO est 7e. Voilà, maintenant on va passer à un autre sport angevin, c'est le hockey sur glace. Les Ducs d'Angers reprennent du service ce soir, c'est à 20h30 il me semble contre Troyes.
Ça va être le fil rouge ce soir, deuxième match de la Ligue Magnus, et on l'attendait ce match. Bon, pas si tôt, mais ça va être le feu ce soir. Quelle ouverture à domicile, puisqu'on affronte les Dragons de Rouen.
Ouais, c'est un peu la rivalité.
C'est le top 4 du.
Ouais, ouais c'est.
Du hockey. Hein.
C'est du grand hockey qu'on aura ce on soir.
On les a joués en match de préparation. On gagne 1-0 de mémoire chez eux. On a joué un seul match à domicile pour la préparation contre les Jokers. J'y étais. Et franchement, l'équipe fait plaisir. Match foufou, franchement. J'ai amené une amie qui découvrait le hockey et les Ducs. Le scénario était parfait. Premier tiers, on va dire difficile. Ça s'observe, ça tente des choses. Deuxième, ça commence à partir dans tous les sens. Il y a des buts. Angers domine au score. Et la troisième, le troisième tiers, c'est l'apothéose. Puisque le match va finir à 6-5, mais on a eu des gros chocs, des bonnes provocations à l'américaine. On a eu deux petites bagarres, enfin de grandes bagarres, comme on aime un peu les voir au hockey. On n'encourage pas la violence dans le sport, mais voilà, ça fait toujours un peu partie du charme. Mais c'est vrai que pour avoir vu pas mal de matchs à l'Ice Park, c'est rare quand même. J'ai vu les joueurs vraiment tomber les gants. Et surtout en match de préparation, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est amical, on va dire, normalement. C'est ça, et là, c'est qu'il doit y avoir une vraie rivalité déjà de base avant le match.
Bah voilà, c'est Sergi, c'est le quatrième de la saison régulière. Ouais. Donc voilà, c'était un bon match pour mettre dans l'ambiance. Du coup, le premier match se jouait à l'extérieur. Pour les Ducs, c'était à Chamonix ce samedi. Et déjà, gros score pour ce premier match, puisqu'il gagne 6-2.
Ah ouais, ça met en confiance.
Ça met en confiance. Et voilà, les nouvelles recrues sont bien acclimatées. Donc, c'est plutôt encourageant. Après, voilà, le hockey, tout peut aller très vite. Hein. Le but, c'est de se qualifier en play-off le plus haut possible.
Forcément.
Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette année, voilà, on ne joue pas de Coupe d'Europe. Ouais. Mais du coup, il y aura comme objectif, je pense, c'est d'aller rechercher cette Coupe de France.
Ouais.
Donc voilà. Et ce soir, on va voir. Donc, ce que ça donne.
Ouais, début du match à 20h30. Cédric, tu nous tiendras au courant de l'avancée du score au fil de l'émission. Sans plus tarder, on va passer à la dernière information locale. C'est de l'athlétisme avec Amandine Brossier qui finit très bien son année en remportant l'épreuve du 400 mètres au meeting de Bruxelles avec son meilleur temps de la saison en 51 secondes et 40 centièmes. C'est peut-être de bon augure pour à l'approche des JO où on la voit performer. On se dit que peut-être elle va réussir à se qualifier. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. T'as pu voir un peu des choses, Clément?
Pas forcément, mais de ce que je sais, c'est pourquoi pas une qualification en série. Je me projette déjà pour les JO, mais on espère une qualification déjà en demi-finale pour Amandine Brossier. Parce que je crois qu'elle a déjà fait les minima. Je suis pas sûr qu'elle ait
déjà fait. Non, elle les a pas fait encore. Non. Elle s'en est rapprochée, je crois.
Son record est en dessous des minima en tout cas.
Ouais, c'est clair.
Bah, on espère les minima déjà. Et puis après, pourquoi pas une qualification en demi-finale au JO. Je pense qu'il serait une très belle performance pour Amandine Brossier à la maison.
Carrément, on espère la voir briller. Et peut-être, on ne sait jamais, nous rapporter une médaille, que ce soit en individuel ou bien même en relais.
Oui.
Comme elles l'ont fait au championnat du monde, mais c'est les garçons, autant pour moi. Elles sont simplement qualifiées en finale, ce qui était déjà très bien. Voilà, on va passer maintenant à l'actualité internationale. Et je vais démarrer avec une petite chronique à moi sur la Coupe du Monde de basket qui s'est donc finie dimanche dernier, comme je l'ai dit dans le sommaire.
Et que de surprises.
Oui, c'est ça. C'est une Coupe du Monde que je vais définir de rocambolesque. Je me permets l'expression. Je vais pas revenir sur la piètre performance de la France parce que je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui pour l'instant. Donc je vais rester dans cet état d'esprit. Mais déjà, je pense qu'il faut retenir l'immense performance qu'ont fait les Lettons. D'abord en nous sortant de cette Coupe du Monde, faut le dire, ils ont bien joué. Et surtout de leur meneur Arthur Zagars, qui s'est fait vraiment connaître du monde entier durant cette Coupe du Monde, car il joue dans un club lituanien imprononçable, vraiment il y a 15 voyelles dans le mot, 15 consonnes dans le mot, c'est je comprends pas comment fonctionne cette langue.
Ça peut être pratique quand tu joues au Scrabble.
Oui, ah, là le mot compte 15, je pense, ça tu marques des points. Mais bref, vraiment ça a été mon gros coup de cœur de cette Coupe du Monde. Il a d'ailleurs battu un record, c'est le plus de passes décisives dans un match de Coupe du Monde, donc avec 17 passes décisives. C'était contre la Lituanie, il me semble. À part ça, les USA n'ont pas eu de médaille. Ils ont fini quatrième en perdant d'abord en demi contre l'Allemagne, puis contre le Canada en petite finale sur un match hyper serré que j'ai pu voir en direct où, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Il reste 4 secondes à la fin du quatrième quart-temps. Les États-Unis sont menés de 4 points. Michael Bridges a 2 lancers francs, il met son premier, il fait exprès de louper le deuxième, il prend son propre rebond, il va derrière la ligne à 3 points et marque un tir improbable en se retournant dans le corner, ce qui fait recoller son équipe pour les emmener en prolongation. Mais après ça, ils ont complètement craqué et se sont fait dominer par le Canada qui finit donc troisième. Voilà, les États-Unis qui ont d'ailleurs annoncé. Enfin, certains joueurs se sont prononcés dans le fait de vouloir participer et d'envoyer, on pourrait dire, une super team, comme ils l'avaient fait au JO de 92 à Barcelone, avec notamment des gros noms comme Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant. Cela vous dit certainement quelque chose si vous suivez un peu le basket. Voilà, sinon, l'autre demi-finale, c'était Serbie contre le Canada. Une fois de plus, c'est l'outsider qui sort vainqueur. Et on a donc une finale Allemagne contre Serbie. Sachant que la Serbie n'a pas Nikola Jokic, le vainqueur du titre de MVP des finales NBA et donc vainqueur des finales NBA par la même occasion, ainsi que deuxième au titre de MVP de la saison régulière de NBA, peut-être actuellement sûrement même le meilleur joueur du monde et même privé de leur superstar. Ils ont réussi à accéder à la finale. C'était une finale assez serrée en première mi-temps, mais la Mannschaft a réussi à prendre le large en deuxième mi-temps, s'offrant leur premier titre de champion du monde de basketball. Et c'est Dennis Schröder, le meneur allemand, qui est élu MVP de la compétition. Et évidemment, je ne sais même pas pourquoi j'ai besoin de le rappeler, il joue au Toronto Raptors, voilà, pour mettre un peu mon équipe en avant, même si la saison NBA n'a pas encore démarré. Elle démarre bien quand même pour mon équipe. Et ça fait plaisir.
Ouais, mais est-ce que ça compte réellement ?
Bien sûr.
C'est sûr.
Bien sûr. Je pense qu'il va faire pareil au NBA. Il va finir MVP, comme il en a vraiment l'habitude. Je le sens bien. C'est notre année. C'est notre année.
En tout cas, enfin. C'est vrai que j'ai suivi un petit peu la fin, tu vois, de ce championnat du monde. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. De voir les Américains tomber comme ça.
Ouais.
Et tout derrière, en fait, derrière les déclarations que t'as, mais tel joueur qui veut revenir absolument,
ouais, bah là,
comme si ça avait été, enfin, c'est.
Ils sont sentis.
C'est vraiment un affront, alors que ils dominent depuis des années et des années, et là, c'est. Ouais, là, vous nous avez fait mal, alors nous, on va revenir beaucoup plus fort, puis en fait. Les gars.
Moi, je pense que les JO, ça va être.
Je pense qu'ils vont pas être marrants pour les autres équipes, à mon avis. Hein. Au moins, on aura du spectacle.
Après, ce qui fait un petit peu peur, mais bon, connaissant les Américains, je pense que c'est déjà en train de négocier pour que les grosses stars puissent sortir de la NBA assez vite pour pouvoir préparer les camps d'entraînement. Enfin.
Ouais, ils sont clair. Très
et en espérant qu'ils bloquent pas certains joueurs.
Même ces joueurs-là en général ont plus de liberté que d'autres de par leur statut. Et en plus, ils ont eux-mêmes envie de jouer cette Coupe du Monde. Il y en a plusieurs qui l'avaient déclaré même avant. Ils ont envie de jouer les JO.
Oui.
Et par exemple, Steph Curry, il l'avait dit avant le début de la Coupe du Monde qu'il aimerait bien jouer les JO. Tu vois.
Il y a un LeBron aussi, je crois qu'il s'est déjà.
Quoi
LeBron James qui s'est exprimé en mode qu'il veut absolument y aller, du coup.
Ouais. Il y a vraiment plein de gros noms, Kerving. Il y a vraiment de quoi faire une équipe de grande voltige, une bonne équipe de All-Star qui va nous amener beaucoup de spectacles à Paris.
Ça va être le feu.
Je sais plus, du coup, mais on avait suivi un peu le feuilleton du transfert, enfin pas du transfert, mais de la naturalisation de ou pas français. Vide. Voilà, ouais. Français ou pas, ou américain ou pas, ou en fait aucune naturalisation. Est-ce qu'on a un peu de nouvelles par rapport à ça?
Bah alors, actuellement, il est naturalisé français et américain. Il a sa nationalité de base, merci, qui est camerounaise. Pardon. Mais bon, a priori, c'est quasiment sûr qu'il va pas jouer pour le Cameroun. C'est Vincent Collet qui dit qu'il n'exclut pas du tout le fait de le faire jouer pour la France. Hein. Il serait même ravi. Voilà une raquette Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Joel Embiid, ça nous régalerait amplement. Mais après, lui, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. On n'a pas eu de déclaration s'il veut jouer pour les États-Unis, pour la France, pour le Cameroun même. Il nous a rien dit. Là, il n'a pas pu faire la Coupe du Monde parce qu'il s'est marié, donc il a pris du temps pour lui. Mais en vrai, on ne sait pas du tout. Ça reste assez flou. En plus, avec les déclarations qui ont été faites par l'équipe de France sur politiquement certaines choses. Certains joueurs se sont d'ailleurs penchés sur la question de la naturalisation et aucun n'est dérangé par ça, quoi. Que Joel Embiid, qui était naturalisé, joue pour la France au JO. Personne n'est dérangé par ça, tout le monde est pour le sport finalement, plus que pour le côté, on va dire, politique du fait de sa naturalisation. Donc s'il veut jouer, à mon avis, il jouera.
Mais concernant les délais et tout, ça le fera.
Les délais.
Il n'y a pas des délais pour qu'il puisse... Ah, là, il est convocable là, à partir de...
Ouais, il a la nationalité française, donc finalement, c'est comme s'il était 100% français, oui.
Du coup, on ne sait pas du tout à ce niveau-là, à vrai dire.
Ça reste un certain flou, comme pour Victor Wembanyama, où lui a annoncé vouloir faire les JO, mais peut-être que les Spurs vont lui dire non, mon coco, ou peut-être qu'il va se blesser parce qu'il ne sera pas assez bien préparé, on ne sait pas. Mais à mon avis, je suis plutôt optimiste à ce niveau-là sur le fait qu'il fasse les JO.
Je trouverais ça, oui, un peu culotté de leur part de l'empêcher. Je sais bien que, enfin, dans le monde du basket, c'est la NBA avant la sélection en termes de qui décide. Mais
en plus, ça ferait gronder les Français après les déclarations.
Carrément. Ouais. Et même les supporters français seraient extrêmement déçus. En tout cas, les États-Unis risquent d'apporter beaucoup de gros joueurs pour ces JO, ce qui peut tout à fait rentabiliser les places pour les chanceux qui ont pu en avoir, qui vont aller voir jouer les États-Unis, verront sûrement, on ne sait pas encore non plus, mais ils verront sûrement les plus grandes stars du basket mondial.
En tout cas, rien ne vaudra la Team 92.
je sais pas.
Ah, je sais qu'il y a des bas, mais...
Mais c'est vrai que c'était Dream Team, quoi. C'est vraiment une icône. Ce sera jamais inégalé en termes d'icône, mais en termes de niveau, si vraiment on envoie tous les meilleurs joueurs de cette année, je pense que, de cette saison,
il y a débat.
Là, il y a débat en termes de niveau de jeu. Mais en termes d'icône, c'est clair que la Dream Team est au-dessus. Voilà. Et maintenant, on va enchaîner. On va parler de rugby, je pense.
On va parler des valeurs de l'Ovalie. J'essaye de faire un accent du sud. Hein. Ouais. Max, si tu nous écoutes, veux bien des cours. Hein, toi qui as l'habitude maintenant de côtoyer un peu le monde de l'Ovalie. Maintenant, il est revenu dans la région bientôt pour continuer d'apprendre son métier, puisqu'il sera du côté du Mans.
Ah, la chance qu'il a. Évidemment, on lui souhaite... grande carrière, Max. Le rugby, ça a démarré très fort avec le premier match, le match d'ouverture, c'était France contre la Nouvelle-Zélande. C'est la France qui a gagné 27 à 13. Est-ce que vous avez pu voir le match? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors, j'ai vu le match. Évidemment, c'était compliqué de rater
l'événement.
Voilà, ça, vu l'affiche d'ouverture, c'est quand même, je pense, l'un des plus gros matchs de cette Coupe du Monde. Dès l'ouverture, c'est quand même quelque chose d'incroyable. pour moi, voilà. Après, la France, en première mi-temps, je les ai trouvés un peu dépassés par l'événement, je veux dire.
Ils, on les voyait la pression.
C'est ça. Je pense que bah, c'est quand même pas rien de débuter une Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande à la maison, devant 80 000 personnes.
Ouais, c'est clair.
Je pense que, en plus, il faisait très chaud, donc une raison de plus pour suffoquer en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on les a sentis beaucoup plus relâchés et c'était vraiment beau à voir un rugby bah comme les Français le jouent à la meilleure de leur manière. Et bah ils nous ont régalé en deuxième mi-temps.
Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on a eu peur avec cet essai des 1 minute 30 des ouais. Néo-Zélandais, on s'est dit oula, c'est mal barré. Mais au final ça s'est bien passé. C'est d'ailleurs, il me semble, la première défaite de la Nouvelle-Zélande en phase de poule en Coupe du Monde. Ça c'est pas rien. T'as pu voir le match toi, Cédric?
Naturellement, enfin,
j'imagine.
J'avais le maillot, enfin, on a sorti les couleurs.
Monsieur.
Et sans le vouloir, j'avais le maillot blanc. On est pourtant habitué à les voir souvent avec le maillot classique dans les couleurs bleues. Et là, j'étais un peu étonné qu'ils jouent en blanc. En tout cas, très beau maillot. Alors, le premier essai, moi, je l'ai vu venir.
Ouais.
Parce que...
On voyait qu'ils avaient...
Ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a eu ce Haka, qui était magnifique.
Oui.
Mais je me suis trouvé timide sur ce Haka. On a été trop dans le respect.
C'est vrai, en fait.
Je m'attendais à ce qu'il y ait...
À la chabale.
Un petit peu, ouais. Mais tu vois, le fait d'avancer...
Te montrer qu'on est là.
C'est ça. Et ça s'est senti, je pense... Alors, dans le début du match, du coup, et même, je dirais, peut-être les 10 premières minutes. Oui. Après, pareil, je pense pas que c'était le fait de jouer ce match contre la Nouvelle-Zélande qui nous a un petit peu peut-être perturbé, mais c'est surtout, ouverture de la Coupe du Monde à domicile, contre les All Blacks, avec tout public qui est quasiment à 90%, et on peut presque dire 99% pour l'équipe de France dans le stade.
Et puis surtout qui espère une victoire, une première victoire en Coupe du Monde.
Puis il y a eu l'attente.
C'est ça.
Mine de rien, il y a eu toute la partie célébration pour l'ouverture. Que ce qui allait être, c'est bon. Ouais. C'était marrant, ouais, voilà. Bon, moi j'ai trouvé que ça faisait quand même un peu vieille France. Ça parlait quand même plus, au monde de l'Ovalie. On a entendu notamment des musiques classiques. C'est forcément pour toute personne qui aime le rugby, la connaît. Donc, c'était plutôt sympa. Après, ça reste anecdotique. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, les joueurs sont peut-être restés trop longtemps en mode on se prépare dans les vestiaires. Et on a vu des images, je sais plus quel joueur, mais qui est vraiment concentré, qui a le casque et qui est en train de dormir pour justement évacuer tout ça.
Enfin, c'était Antoine Dupont dans le bus.
C'est vrai que on sait quand ça doit taper fort d'entrée de jeu. Oui. Et on a eu le plus beau scénario d'être. Au final, en difficulté, les pénalités qu'on réussit en début de match nous font largement du bien.
Ouais, Ramos qui est exceptionnel aussi.
Faire passer devant.
Et derrière, on remonte au score progressivement, on impose un peu notre jeu. On s'est fait peur à chaque démarrage, par contre. J'ai trouvé que quand on démarre la deuxième mi-temps, on se refait à peu près le même type d'erreur.
Le deuxième essai néo-zélandais, il est un
très
peu
discutable.
Une grande passe qui fait tout le temps.
On s'est fait plaisir. Il y a eu des envolées qu'on pas été concluantes, quand on a vu cette partie d'un coup, enfin en tout cas, on a eu du beau rugby pour le premier match. Ouais.
Maintenant faut continuer.
C'est ça, parce que si je devais vraiment mettre un point négatif, c'est qu'on prend pas de bonus au final.
Prendre un bonus contre la Nouvelle-Zélande, ça aurait été une performance.
Ouais. Mais tu vois, quand tu sais que derrière l'Italie gagne aussi en faisant le bonus, en soi c'est pas ce qui va nous mettre en difficulté. Non, en tout cas pour l'instant. On a joué la Nouvelle-Zélande peut-être affaibli aussi parce qu'il perd son capitaine aussi. Après, dans la matinée.
Nous aussi, on a pas mal de joueurs blessés. Ouais, on a perdu un dès le début du match aussi.
Non, mais je pense que dans la tête des Néo-Zélandais, tu vois, tu perds ton capitaine, ça peut te mettre un plus gros coup que
si
de perdre un de tes coéquipiers en
si
plein
on
match. Perd
du fond, c'est vrai que, ouais.
Ça a toujours un impact, mais en tout cas, ça a pu jouer aussi chez les Néo-Zélandais. En tout cas, moi, j'ai trouvé celui qui marque le premier essai.
Penaud.
Ouais. Du côté néo-zélandais.
Ah oui. Le numéro 11,
très beau gabarit. Enfin.
Ouais, il a fait
un très bon match, moi, j'ai trouvé.
C'est vrai, il a fait des jeux de jambes où il passait pas mal de défenseurs français. Il avait un très bon impact positif dans le jeu des Néo-Zélandais, ouais, c'est clair.
Et du coup, enfin, le match, vous l'avez regardé comment ?
Avec des amis.
Avec des amis, ouais.
Ouais, moi, j'ai regardé avec ma famille. Tout ça,
ouais. Et est-ce que vous avez senti justement qu'il y a eu un gros engouement
Ah oui. Bah oui. Moi, ça m'a fait penser à la Coupe du Monde de foot, honnêtement.
Ouais, c'est vrai, moi aussi. Ça, j'avais tous mes potes qui sont mis à regarder du rugby.
Ouais,
alors
voilà,
que,
c'est ça.
De base, personne ne regarde. Il y en a, on devait leur expliquer les règles pendant le match. C'était assez marrant, mais.
Ouais, bah moi, c'est arrivé aussi. Il a fallu que j'explique à certains jeunes un peu le principe de comment on marque au rugby. Enfin, en tout cas, je trouvais que, il y avait une belle communion. Les gens ne connaissaient pas forcément, mais s'ils sont intéressés, on va voir ce que ça va donner jeudi soir contre l'Uruguay, si l'engouement va continuer comme ça.
Je pense que oui.
Ouais, je pense que vraiment.
Surtout qu'on a gagné, donc.
Ouais, ça, là, je pense que les gens sont assez enjoués par cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il y en a un autre qui est enjoué? Ici, c'est Alex qui vient de nous rejoindre avec 41 minutes de retard quand même. Alex.
Oui, désolé. Bonjour à tous. Salut les gars, j'espère que ça va. Petite réunion juste avant l'émission. J'ai essayé de faire au mieux et c'était le mieux que je pouvais faire, 41 minutes. Je vous ai un petit peu écouté dans la voiture pour parler un peu du rugby. C'est vrai que c'était quand même un bel événement. Et oui, c'est vrai qu'on était enjoué par cette performance, même si... On s'attendait peut-être à un peu plus, même si ça reste les Blacks. On a un peu frémi, on va dire, à un certain moment. Et non, ça a été une très belle rencontre qui a été globalement, en gros, maîtrisée par les Français. Mais vous avez évidemment très bien analysé le match. Donc voilà.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que les matchs d'après vont être un peu plus... il y aura un peu plus de plaisir, des scores plus gros, à mon avis. Et puis, c'est là où il ne faut pas flancher, surtout.
Et puis la compo de Galtier qui est sortie pour jeudi, il y a 12 changements, donc on voit que aussi Galtier a...
Il fait tourner.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ça. Contre des adversaires plus faibles, ça paraît normal. Voilà pour le rugby. On va maintenant on va passer au tennis avec l'US Open et on va parler du 24e sacre de Novak Djokovic. Est-ce que quelqu'un sur la table a pu voir le match?
Non. Bah, c'est sûr que c'est à des heures tardives.
Hein. Oui, c'est vrai, c'est à New York, donc, en rediff ou quelque chose comme ça.
C'est surtout ce final-là, personne ne la voyait.
Ah non. C'est vrai. Medvedev qui sort Alcaraz en demi-finale. C'est sûr que c'est
juste après le rugby, t'apprends ça.
Oui, bah c'est ça.
T'es là, t'es dans l'euphorie, tout. Tu fais waouh, on a gagné, on va avoir une super finale.
Et ouais, non.
Et puis là, tu fais.
Alcaraz à Djokovic, ce sera peut-être pas à tous les grands chelems, parce que c'est vrai que bon, enfin, faut que ça tourne un peu, là c'est vrai qu'on va être
redondant
dans un segment où en fait on va être sur l'apogée de Alcaraz et puis sur la fin mais encore bonne, on va dire, de Djokovic, donc en sachant que Federer est à la retraite, que Nadal est blessé.
Ouais, donc
voilà, forcément. Et puis il n'y a pas forcément d'autres grands noms qui ressortent en
beaucoup d'outsiders qui ont à peu près le même niveau après.
Donc, justement, Medvedev qui parvient, mais c'est ça. Je pense qu'à mon avis c'est à peu près le seul qui peut justement.
Rude
de temps en temps. Ouais. Peut-être le jeune danois là, Rune aussi.
Ouais, c'est de temps en temps.
Mais c'est vrai que voilà. Pour l'instant, il y a deux hommes sur cette planète tennis. Ça reste les deux.
Vraiment réguliers.
D'ailleurs, du coup, Djoko, il fait combien de finales cette année? Il fait les quatre, je crois.
Bah là, il est en route pour le carton plein, je crois.
Bah non, du coup, il a passé à Wimbledon.
C'est vrai, non.
D'ailleurs, ça reste un gros regret chez lui, c'est qu'il a jamais fait de grand chelem calendaire. Et que, bah, on avait déjà parlé, je crois, plein de fois, parce qu'il avait, je crois que, il y a quatre années, où il gagne trois grands chelems sur les quatre. Donc, il y a quatre années. Déjà, c'est complètement dingue. Mais, mais ouais, il y a quatre années où il passe à un grand chelem, à une, sûrement une finale chaque fois, de gagner un grand chelem calendaire, ce qui est quand même assez énorme. Et je crois qu'il a jamais été fait. Je sais pas si c'est vrai que t'as mémoire de ça, mais,
grand chelem,
c'est-à-dire les quatre dans
les
même année.
Il me semble que Federer le fait peut-être.
Ouais. Faudrait voir.
Peut-être, mais ça doit être assez rare quand même.
Surtout, ouais, là, c'est le 24e, quoi. C'est complètement dingue. C'est... Ouais. Et puis, je sais pas si t'as vu Faustin, un petit clin d'œil au basket avec.
Ouais, il sort son maillot de Kobe.
C'est ça, numéro 24. Mais ouais, c'est que dire. C'est vrai que on a chacun peut-être nos affinités sur les goats, on va dire, du tennis. Mais on est obligé de reconnaître que, bah voilà, Djokovic, c'est. Oui. Qu'on l'aime ou pas,
il en fait partie.
C'est 24 grands chelems, c'est littéralement jamais fait.
Bah oui.
Et dans une période où il y avait aussi Nadal et Federer, donc il a fallu qu'il les batte aussi. Bon bref,
ça a repris du temps.
C'est vrai. Ouais. Non mais
maintenant, l'objectif c'est d'avoir le record ultime.
C'est ça. Qui
actuellement c'est 25.
Ah ouais? De Serena Williams.
Oui. Serena doit être à 23 de mémoire.
J'ai oublié son nom, mais oui, mais il y en a une qui a.
Ouais. Mais en tout cas, le record absolu est.
Ouais, c'est à 25.
Et soit 24.
C'est 24,
c'est 24. C'est 24, donc du coup, il a égalisé.
Ouais, c'est ça.
Et
donc il lui manque plus qu'un.
Ah, c'est ça, voilà. Alors, il dépasse ainsi le record de Serena Williams et égale le record absolu de l'Australienne Margaret Court.
C'est peut-être
pas un temps que nous on connaît. mais voilà, ça montre que qu'il est très solide et en plus comme je le disais, il a eu quand même beaucoup de concurrence à son époque. Margaret Court, si elle avait beaucoup de concurrentes, mais voilà, c'est vrai que ça c'est énorme.
Un peu moins, je pense quand même.
Oui, peut-être.
À mon avis,
c'était un tennis encore différent, mais en tout cas, déjà. Quand on voit qu'un record comme ça tient aussi longtemps, on voit d'avoir eu cette 24e victoire, mais même, je pense, la barre symbolique de passer les 20 victoires, tout ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable au nombre de joueurs qu'il y a.
Ça prouve que c'est vraiment. Enfin, quand tu passes cette barre-là, t'es forcément l'un des meilleurs joueurs de tous les temps du tennis.
C'est mythique.
C'est ça.
Ouais. Surtout qu'on a eu une période où en gagner deux dans la saison, c'était un exploit parce qu'il y avait quasiment un spécialiste dans le top 4 pour chaque surface.
L'intensité énorme.
Voilà.
Excusez-moi, ça se fait pas trop, hein, mais parce que du coup, j'ai pas pu écouter toute l'émission. Vous avez parlé de quoi un petit peu par curiosité?
Alors, on a démarré les actions locales, on a fait tous les clubs de basket, on a fait.
C'est vrai que vous avez un peu parlé de la soirée magique de l'UFAB.
Exactement, oui.
Incroyable.
La présentation des joueuses, etc.
Et les maillots incroyables aussi.
Oui, aussi.
Très beau, très bon maillot.
C'est pas très radiophonique, mais on peut pas vous les montrer. Mais
avec on en parlait, un violet un peu plus sombre.
Ouais,
par rapport à ceux qui connaissent.
Moi, j'ai l'impression que la couleur, ouais. Il y avait une très belle lumière, je trouve, pour la présentation de fête. En plus, dans un lieu magnifique, puisqu'on était à la collégiale Saint-Martin.
Exactement.
Je vous invite ce week-end, d'ailleurs, si vous avez jamais visité, à y aller pour les journées du patrimoine. Mais c'est vrai que le lieu, quelque part, il y avait ce côté mystique, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça, historique un peu.
Historique aussi, voilà. Le club avait 20 ans.
C'est ça.
Donc, tout était là pour magnifier l'apparition des nouveaux maillots. Et en tout cas, voilà, on a hâte de les voir à la lumière de la salle, quoi.
Évidemment. Et vous avez un peu parlé de football?
Non.
On a parlé du SCO, mais on n'a pas encore parlé de l'équipe de France.
Très bien. Et j'ai les compos sous les yeux, est-ce que je peux les donner?
Avec plaisir.
Mbappé qui
On a une équipe effectivement assez surprenante. On fait tourner, évidemment, c'est un match amical contre une Allemagne qui est assez malade en ce moment, qui vient de changer d'entraîneur. Mmh. On a Maignan toujours dans les buts. On a la première sélection de Jean-Claire Todibo, le Niçois, qui va être associé à Saliba en défense. Et puis sur les côtés, on aura Pavard qui va faire son retour. Et à gauche, ce sera Hernandez Théo, le joueur de l'AC Milan. On a un 4-4-2 avec Rabiot sur un côté. Côté gauche, qui va, on va dire, un petit peu remplacer Mbappé, puisque Mbappé ne jouera pas ce match. Et puis, on a un tandem madrilène, Camavinga-Tchouaméni, avec également Coman sur le côté droit et de pointe avec un Griezmann qui va être plus haut avec Kolo Muani qui va l'accompagner devant. Donc voilà, c'est vrai que c'est une compo assez étonnante. Je sais pas ce que t'en penses, Clément.
Une jeunesse qui promet, hein, une équipe encore très jeune mais qui est bourrée de talent, et je pense que vraiment ça promet. On va avoir 5-6 années là qui vont être encore pas mal pour le foot français.
Ouais, c'est clair que là la compo, même si c'est pas l'équipe type de l'équipe de France, c'est quand même une équipe qui est top niveau mondial.
Que beaucoup de nations
aimeraient bien. J'imagine qu'ils vont nous le prouver ce soir en faisant un bon match contre l'Allemagne.
On l'espère.
Je pense que ouais, ça peut être pas mal, surtout que, comme je disais, l'Allemagne, ça enchaîne les défaites. Ils ont changé de coach, Hansi Flick, qui a été remplacé par des intérimaires, notamment Rudi Völler, qui bosse à la fédération allemande. Et mais ouais, je pense que là on peut faire quelque chose. J'ai pas vu la compo allemande, mais il y a peut-être quelque chose à faire ce soir. Je l'ai, mais c'est vrai que les Allemands qui sont restés sur un gros revers face au Japon, donc
4, hein, ouais, ça fait mal.
C'est ça pour les Allemands. On a Ter Stegen dans les buts, Rudiger, Ta, Süle, Henrichs. Au milieu de terrain, on aura Gundogan et Emre Can. Et puis en attaque, on aura notamment Thomas Müller qui va faire son retour dans le 11. Avec également Florian Wirtz, Serge Gnabry et Leroy Sané. Donc pas de, par exemple, Kai Havertz qui avait été très mauvais sur ce premier match.
J'ai l'impression que les Allemands passent un peu à... Enfin là, ils sont un peu dans un creux... générationnel, on va dire ça comme ça. Beaucoup d'anciens, on va dire, dans l'équipe, dans l'équipe d'aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai.
Alors que, tu vois, en équipe de France, on a mis Mbappé capitaine pour faire briller la jeunesse un peu. Ils ont mis Gundogan en nouveau capitaine. C'est vrai que ça fait pas très renouveau. On rame un peu, j'ai l'impression, du côté de l'Allemagne, à voir ce qui va se développer. Il y a Moussiala, qui est un jeune. Qui est excellent, qui est très prometteur.
Qui est blessé sur ce rassemblement, qui aurait pu faire beaucoup de bien.
Qui a un grand avenir du sport, enfin du football allemand et même du football international, à mon avis.
Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée avec le sport allemand, puisque vous n'avez peut-être pas parlé basket encore ?
Si, bien sûr. Si,
vous avez parlé de la Coupe du Monde ?
On en a parlé déjà.
Et du coup, tu as pu voir la finale ?
Ouais, j'ai pu voir les deux demi-finales, la finale, je l'ai pas vue en entière parce que j'étais en cours.
Ouais.
Mais j'ai pu voir une partie quand même, et comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, c'est mérité pour les Allemands, c'est inattendu, et ça fait plaisir de voir un peu l'Europe sur le toit du monde en basket FIBA, quoi.
Ouais, c'est sûr, ça change un peu effectivement de la Team USA,
ouais,
qui va peut-être venir très fort sur les JO, et ça devrait faire mal.
Ça fait peur, ouais. Voilà. Donc on a
une breaking du fil rouge.
Oh là là.
On aurait préféré une ouverture du score des Ducs, mais c'est ouverture
C'est comme ça.
À la 7e minute.
Ah là là. Ouais. Les dragons qui nous réussissent pas du tout.
Sauf en match de préparation.
Ah oui, c'est vrai qu'on avait réussi. Mais le problème, c'est que l'enjeu, c'est la Ligue Magnus quand même. C'est mieux de gagner en Ligue Magnus.
Mais bon, on est toujours dans le premier tiers. Ouais. Tout est à faire.
Évidemment.
Voilà, donc on espère qu'ils vont réussir à remonter quand même ces Ducs. Maintenant, j'ai envie de vous parler un peu de volley.
Ouais.
C'est les championnats d'Europe. Et les Français ont gagné contre la Roumanie assez aisément. Et se dirige pour les demi-finales, sachant qu'ils sont champions olympiques en titre. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a pu voir un peu des matchs, des extraits, etc., ou pas du tout.
Ah, sur le volet, j'ai pu regarder un petit peu.
Ouais.
Intéressant. Enfin voilà, les Bleus qui maîtrisent leur domaine sur à peu près l'ensemble des rencontres. Rien que regarder le quart de finale où il remporte 3-0, c'est quand même quelque chose d'assez majeur, on va dire. Donc, c'est clair que c'est une équipe évidemment qui fait partie des meilleures équipes européennes, et on attend de voir la demi-finale qui sera contre. Alors on sait peut-être pas encore, hein, parce que je crois que tout n'est pas joué.
C'est en Italie, c'est tout.
Je crois que c'est l'Italie ou une autre équipe. En tout cas, c'est vraiment. C'est vraiment ouais une équipe de France qui fait plaisir, qui se rassure contrairement à d'autres ouais, équipes c'est... de sport co sans les nommer évidemment. mais c'est une équipe qui va se rassurer en vue des JO, qui va les préparer comme il se doit. Et c'est vrai que pas de couac avant justement cette période-là, ça fait toujours plaisir.
Ouais, du coup, ce sera le vainqueur du match Italie-Pays-Bas et pour la deuxième demi-finale, ce sera la Slovénie contre le vainqueur du match Serbie-Pologne. Voilà.
Ok.
Donc l'Italie ou les Pays-Bas, a priori, bah les deux ont l'air prenables hein, pour l'équipe de France. On peut, je pense, carrément espérer un titre européen au vu bah de leur grande performance récente.
Ouais.
Avec où ça joue bien, ça joue du beau volley, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. Pour les petites dernières minutes qui nous restent, je pense on peut parler du GP Explorer.
C'est vrai.
Un peu de sport auto, comme il n'y a pas eu de F1 cette semaine. Du coup, le GP Explorer, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs qui ne le savent pas? C'est une course de Formule 4 au circuit Bugatti du Mans, entre influenceurs, c'est organisé par Squeezie, c'est diffusé en direct sur Twitch du matin jusqu'au soir. Il y a eu, il me semble, 11 heures de live au total. Qui a 12 heures.
Oui.
Autant pour moi. Et ça a battu du coup bah le record d'audience de la plateforme avec au total il me semble
1,3 million à peu près.
Ouais, enfin, je suis pas sûr qu'ils battent le record.
Le record de France.
Le record de France.
Oui, voilà. Et de France oui, avant ouais. C'était l'Eleven All-Star match de foot France et Espagne.
1,200,000.
Voilà, et là du coup bah 1,300,000 record de France, sachant que lors de la première édition, ils l'avaient déjà battu. Ils avaient été rebattus dans la foulée par le Living Star. Enfin bref, c'est peut-être le plus grand événement de l'année en termes de tout ce qui est influenceurs, YouTube, Twitch, etc. en France. Et du coup, c'est Depiello qui a gagné cette course, qui avait fini deuxième lors de la première édition et qui a du coup dominé et fini premier devant Sylvain qui avait lui gagné le Grand Prix dernier finalement. Est-ce que vous l'avez regardé pareil autour de la table?
Ouais, pour le coup c'est vrai que j'ai un peu regardé avant de faire la rentrée de la radio du samedi matin. J'ai un peu regardé les essais libres, c'est ça.
Ouais.
J'ai pas pu regarder les qualifs, mais j'ai regardé le Grand Prix, enfin la course, qui m'a clairement déçu. Alors il y a eu des faits de course qui sont clairement pas la faute évidemment de tous ceux qui ont été impliqués.
Alors, soutien à Manon pour ça.
Exactement, oui, exactement. Moi c'est plus par rapport au... Alors évidemment, je ne connais pas assez peut-être le sport, mais c'est vrai que les commissaires, je sais pas ce que t'en penses Cédric, qui vont ordonner entre guillemets 5 à 6 tours de drapeau jaune pour au final faire un drapeau rouge.
C'est la procédure. Au départ, il y a pas forcément nécessité de mettre une safety car. C'est juste en fait qu'ils ont dû intervenir avec une ambulance.
Ouais.
Donc à partir du moment où tu dois intervenir sur le circuit avec une ambulance, t'es obligé
C'est peut-être quelque chose qui a changé au moment.
T'es obligé de passer en safety car. Après, je pense que pour une course comme ça, il y avait que 15 coups de tour.
Le drapeau rouge aurait dû être mis,
allez, pas forcément dans le premier tour, mais en tout cas deuxième tour troisième.
C'est ce que je pense, parce que ils peuvent pas, parce que c'était les questions aussi qui revenaient à ce moment-là. Ils pouvaient clairement pas dire, on fait des tours dans le vide et on attend, parce qu'en fait ils ont un certain réservoir d'essence et qu'ils pouvaient évidemment pas le faire.
Il y a aussi les pneus.
Mais voilà, évidemment.
Faut expliquer que là, ils ont les mêmes pneus du début des essais qualificatifs.
Ouais.
Donc, pour certains, 3 manches.
Ouais.
Plus la course, donc 15 tours. Plus forcément un réservoir en essence qui est limité. Donc, ça compliquerait les choses de rajouter des tours. Ce serait peut-être une limite plus dangereux, ne serait-ce que pour les pneus qui peuvent éclater. Et là, c'est vrai que ça pourrait être un peu plus.
C'est des risques inutiles, quoi.
C'est ça.
Mais au final, c'est quand même un événement qui nous a régalé, hein, même s'il était moins réussi, on va dire, que l'année
la course.
Ouais, ça, la course était moins bien réussie, même si je pense que les étoiles s'étaient alignées lors de la première édition où on a eu une bataille entre Sylvain et Depiello en tête de la course. Jusqu'à la fin où ils se sont battus pour chercher cette première place Et bah ces années, on a eu beaucoup moins de duels. La première place s'est dessinée assez tôt. On a tout de suite su que Despiélot allait gagner. Mais c'est quand même beau de voir voilà du sport auto mis à l'honneur à ce point sur une plateforme comme ça.
Oui, et puis de très beaux invités.
Et oui, c'est clair. On a eu Esteban Ocon, Pierre Gasly, un concert à la fin de Hamza et PLK.
Ouais.
Ça devait être chouette d'être là-bas.
On va marquer bah, du coup la fin de l'émission, puis on va rendre l'antenne pour les prochaines émissions sur Exactement. Les ondes de Radio G. Un dernier petit mot.
Bonne soirée à tout le monde. Ouais. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine.
Bon match.
Ouais.